Bonjour, nous sommes ravis de vous présenter Bien Vu, le podcast. Je suis Marie-Dominique Gagné, rédactrice en chef de Bien Vu.
Je suis Pierre Tourtois, journaliste. Lors de ce rendez-vous à écouter, nous décrypterons pour vous l'actualité.
Nous vous donnerons la parole, opticiens et décideurs,
pour partager vos passions, vos expériences, vos aventures métiers et vos interrogations. Dans ce nouvel épisode de Et comment on fait, nous abordons la question de l'éco-responsabilité dans vos magasins. Entre gestes de bon sens au quotidien et recours à des produits éco-responsables,
quatre de vos confrères et consoeurs
vous racontent comment ils ont abordé ce tournant, chacun à leur manière. Commençons par Stéphane Lemaire, opticien et propriétaire du magasin indépendant La Lunette Rouge, dans le 17e arrondissement de Paris. Sensible aux problématiques éco-responsables à titre personnel, il a pris ce tournant en magasin suite à des rencontres impromptues et déterminantes.
Je me souviendrai aussi toujours d'un appel que j'ai reçu en boutique. C'était à peu près à la même période. Une jeune fille qui m'appelle. Oui, bonjour, je voudrais changer de lunettes. Est-ce que vous avez des montures qui sont faites en coquillage ou en matériaux recyclés Puis là, je réponds. Bon, je ne réponds pas non, mais je réponds sur des matériaux qui existaient déjà pour des acétates bio, etc. Mais en fait, elle voulait quelque chose de recyclé. Et j'ai pas pu répondre oui à sa question, donc elle allait faire ses lunettes ailleurs, c'est clair. Et je me suis dit, là, il y a quand même un mouvement, bon, je ne me considère pas vieux, mais en tout cas chez les jeunes, c'est-à-dire les moins de 25 ans, parce que c'était à peu près son profil, je pense, où il y avait une recherche très claire de produits recyclés en partant d'autres matériaux. J'imagine que ce n'était pas uniquement dans les montures que ça l'intéressait, mais c'était dans l'ensemble des produits qu'elle consommait. Je me dis, il y a vraiment un mouvement générationnel par rapport à ça, une prise de conscience, une éco-responsabilité à un niveau assez élevé avec de A à Z, je vais favoriser les produits éco-responsables ou recyclés, etc. Et dans l'optique aussi. Et je me suis dit, là, il y a deux façons de faire. Soit tu dis, bon, c'est marginal, ça ne t'intéresse pas, tu laisses tomber. Possible, hein, ça ne va pas non plus être 90% du marché, donc on peut raisonner. Soit tu te dis, ben, là, il y a une tendance chez des jeunes, tu as envie de ça, ça a du sens, ça fait. Je vais les accompagner, je vais en proposer ces produits-là. Moi, ça va me faire découvrir d'autres choses. Et puis, ça va, je vais pouvoir leur proposer ce qu'ils recherchent. Donc, c'est du gagnant-gagnant.
Pour Anne Flambeau, propriétaire d'un magasin Optique 2000 à Remiremont, dans les Vosges, sa trajectoire vers l'éco-responsabilité est la conséquence, côté business, d'une prise de conscience intime, avec des choix forts qui ont impliqué des ajustements dans le quotidien de son point de vente.
Pour le coup, c'est... Je ne saurais pas dire il y a combien de temps, mais c'est une continuité de ce que je fais au quotidien à titre personnel. C'est-à-dire qu'il y a un jour où on se dit, mais pourquoi on trierait à la maison et qu'on ne trierait pas au magasin? Pourquoi on s'inquiéterait des problématiques-là à titre personnel et pas à titre professionnel? Et que j'estimais qu'en tant que chef d'entreprise, on avait notre grosse part de responsabilité aussi à se poser les questions pour nous-mêmes et pour nos magasins. Ça doit bien faire 8-10 ans que je m'inquiète un peu de ce que deviennent les déchets en magasin, de comment on peut optimiser ces choses-là, de nos consommations d'eau, de nos consommations d'électricité, pour le faire de façon raisonnable, tout en n'impactant pas notre activité, quoi.
Allier éco-responsabilité et préservation de son modèle économique, c'est également la préoccupation de Jocelyn Villet, associé et gérant d'un magasin Optique Lafayette à Toulouse.
Aujourd'hui, on va dire c'est surtout matériel, c'est avec mise en place en manière d'actions plus ou moins impactantes, notamment si on commence par les choses les plus simples, c'est typiquement les microfibres. Maintenant, on a des microfibres qui sont en fait de matières recyclées, etc. Donc rien que ça, par exemple, c'est des petits points de détail où on peut faire beaucoup d'efforts, mine de rien, le nombre de chiffonnettes qui sont distribuées, etc., c'est quand même pas négligeable. On a pareil des choses bêtes. On n'a plus de lingettes à usage unique. Maintenant, on n'utilise plus que des sprays, finalement, dont le flacon, on peut le re-remplir. Ça permet en plus d'offrir un service en plus aux clients, de l'inciter à revenir, etc. Donc, même dans la démarche RSE, c'est bénéfique pour la planète. C'est un bon point pour le commerce également. Donc, voilà. Comme je dis souvent, en vérité, c'est vrai que la démarche RSE, elle est intelligente dans toutes les facettes, si je peux dire, parce qu'en réalité, on se rend compte que quand on fait des économies, je dirais, pour la planète, pour l'environnement, etc., en réalité, même le portefeuille peut en économiser à l'arrivée aussi, des fois. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde, donc autant le faire.
Cette stratégie des petits pas, des petits gestes du quotidien, on la retrouve également chez Anne Flambeau.
Oh, ça débute par des choses assez basiques qui sont vraiment trouver des espaces et des modes de fonctionnement pour pouvoir trier chaque type de déchets, c'est-à-dire recycler le papier. J'ai commencé par m'associer à une entreprise qui s'appelle Recigo pour le tri du papier, qui
D'accord.
est un système payant avec des boîtes qui vous mettent à disposition dans lesquelles vous mettez tous vos papiers à recycler et il y a une garantie de recyclage de façon parfaitement sécurisée. En fait, c'est la poste qui venait rechercher les colis et qui les envoyait dans des centres de tri spécialisés et sécurisés. C'était quelque chose qui nous a été proposé par notre groupement, qui avait été négocié au niveau des tarifs, mais qui s'est avéré sur la durée pas forcément pratique, notamment parce que c'est un système, je pense, qui est très adapté sur de la grande ville, type Paris, mais nous, dans nos petites régions, j'avais à chaque fois un facteur qui ne savait pas trop quoi faire du colis et je n'étais pas certaine que ça parte de façon. Enfin, il ne savait jamais trop quoi faire de ce colis-là. Donc, je me suis rapprochée d'associations locales. Il y a forcément des gens. Donc, j'ai trouvé une entreprise qui faisait du recyclage, papier, carton, toutes ces choses-là avec des systèmes de réinsertion de personnes en difficulté pour du réemploi, des choses comme ça. Donc, il y avait une double démarche aussi qui était aussi. En termes de social, qui venait récupérer les papiers sur place. Et puis là encore, c'était eux qui venaient chercher, parce qu'ils sont vraiment à quelques kilomètres du magasin. Et puis d'elle-même, elle a dit, ben ouais, mais c'est quand même pas pratique pour moi, parce qu'elle venait avec sa voiture personnelle chercher nos cartons usagés, nos papiers usagés et tout ça. Et au final, eh ben, je me suis repliée sur la démarche qui est je suis dans un centre Leclerc et les déchets sont depuis peu, on va dire, mais ils sont super organisés dans leur façon de recycler et de trier. Donc, il y a quasiment une mini centrale de tri intégrée au centre Leclerc et ils nous y donnent accès. C'est-à-dire que on broie les papiers. Alors, les papiers sont réutilisés en recto verso systématiquement pour tout ce qui peut l'être. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est fichier atelier qui reste en magasin, mais on réutilise des papiers qui ont déjà été imprimés. Donc, il n'y a pas un papier avec un bout de blanc qui sort, qui part à la poubelle. C'est forcément recto verso. On broie, il y a une imprimante à double bac, une avec du papier brouillon et une avec du papier propre pour qu'on choisisse à chaque impression en fait si on imprime sur une feuille propre ou sur une feuille brouillon. Et ensuite, c'est broyé et ça part au tri sélectif du centre commercial. Donc, c'est géré de A à Z par nous et ça part ensuite au centre commercial dans la centrale de tri. De même pour tout ce qui est carton, de même pour tout ce qui est plastique. On a énormément de plastique, le beau plastique blanc qui emballe toutes nos montures optiques quand on les reçoit neuves. Par exemple, vous savez, il y a les plastiques qui couvrent les branches aussi. On a des petits sachets plastiques pour pas abîmer les branches des lunettes pendant le transport. Ces petits plastiques-là, on les trie à part et on les donne aux coiffeuses qui, elles, en sont friandes puisqu'elles mettent ça sur les branches des lunettes quand elles font des colorations aux dames. Donc,
D'accord.
elles, plutôt que d'en acheter, eh ben, on leur amène à tour de rôle. Dans le magasin, les filles prennent les petits plastiques et les amènent à leur propre coiffeuse. Donc ça repart dans un circuit, certes, qui finissent à la poubelle, mais au moins elles ont une deuxième vie, ces petites pochettes de plastique. Tout est trié, c'est-à-dire tous les soirs, chaque poubelle est vraiment, il y a le papier, il y a le carton. Et puis ben, après, il reste le petit sachet de la poubelle noire qui reste quand même relativement ridicule en taille par rapport au reste. Ça, c'est la partie tri pure et dure. Et je dirais, il y a la partie eau aussi. Nos meuleuses utilisent quand même énormément d'eau. Et on est passé, ça, c'est beaucoup plus ancien, où on était passé à un bac de récupération. C'est-à-dire qu'on est en circuit fermé, là où avant, on était en circuit ouvert. Ça, c'est vraiment les premiers pas que j'ai faits sur cette démarche de responsable en magasin, on va dire.
Et pour Julien Grandchamp, copropriétaire de deux magasins indépendants à Toulouse, l'éco-responsabilité est un pari total, intégral. En effet, alors qu'il possédait un premier point de vente classique, ouvert il y a 10 ans, il s'est lancé il y a maintenant un an dans une nouvelle aventure en ouvrant un magasin éco-responsable, avec l'envie de travailler autrement et de renouveler aussi son approche du marché.
Donc nous, on a un magasin d'optique avec Bastien Picot, donc mon premier associé depuis 10 ans, Optique Rouex, magasin indépendant classique, on va dire, qu'on a racheté il y a 10 ans. Je dirais depuis 2015 à peu près, on a voulu se déporter vers une, on va dire, privilégier de plus en plus les collections françaises en matériaux naturels. Nous, on a une dimension, on va dire, une orientation politique vers l'éco-responsabilité. Et après, évidemment, du coup, on s'est dit que ça pouvait marcher commercialement. Le but, c'est que ce soit rentable, ça pérennise un chiffre d'affaires. Et en tout cas, au début, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas proposer ce type de produit qui, la démarche nous plaisait, elle recevait un écho favorable de façon commerciale. Ou de fil en aiguille, on a augmenté le nombre de collections à OptiCorrex qui concernaient ça. On a commencé à réfléchir à qu'est-ce qui était intéressant en lunetterie. Et ensuite, bah, du coup, il y a un an maintenant, on s'est dit, on a le premier magasin qui marche assez bien, on est content, on a fait des travaux. Enfin, voilà, je décris un état psychologique d'opticien qui a un magasin depuis 10 ans. On s'est dit, on a envie d'un nouveau challenge, d'un nouveau truc. Les planètes se sont bien alignées. On a trouvé une nouvelle associée qui est la femme d'un ami qui était super, qui était sur la même longueur d'onde par rapport à nous. On a trouvé un local qui était bien, pas très cher, sans droit au bail. Et là, du coup, on s'est dit, bon, ben, vu qu'on a envie de, qu'on a apprécié développer ce côté un peu éco-responsable en partie sur notre première boutique, réfléchissons à un truc global le plus parfait possible en quelque sorte.
2018-2019, après quelques années de stabilisation suite au rachat de son point de vente, Stéphane Lemaire a souhaité faire évoluer son offre de produits. Volonté de favoriser des circuits courts, souhait de faire appel à des artisans lunetiers, défense d'un certain patriotisme économique, petit à petit, l'opticien parisien a introduit dans son magasin des fournisseurs collants à sa vision de l'éco-responsabilité.
Avant d'évoluer, l'idée effectivement de racheter un lieu, un fonds de commerce, c'est de continuer avec ce qu'il y a. Donc j'ai continué effectivement initialement un moment avec ce qu'il y avait. Quelques années après, on dirait aux alentours de 2019, 2018, 2019, j'ai commencé à me dire que l'approvisionnement monture et l'offre de services associés devaient quand même se faire de manière plus, comment dire, plus indépendante, plus juste. Plus ajusté et puis plus en phase avec ce que proposaient certaines filières ou certaines organisations que je ne connaissais pas et que je découvrais, notamment des gens qui faisaient fabriquer des montures en France et qui les proposaient directement aux opticiens sans intermédiaire, avec des personnes qui avaient des parcours vraiment riches en termes d'expérience et aussi de compétences. Et qui relançaient en même temps une production locale parce que... moi j'ai connu le début de l'optique où il y avait déjà plus pratiquement de fabricants dans les régions historiques, on va dire, enfin très très peu. Que certains reproposent de faire travailler des sites en France et proposent des offres de montures qui aillent dans ce sens-là, ça m'a parlé assez rapidement, quoi. Et voilà, donc je dirais que ça a commencé par un fournisseur que je suis allé rencontrer à Lyon, qui m'a proposé ses produits, qui avait créé un magasin complètement éco-responsable en termes de normes. Je dirais de construction, de gestion de l'énergie, etc., qui proposait des produits aussi en rapport, et puis qui après a arrêté son activité d'opticien pour justement faire fabriquer des montures en France et les proposer à nous, opticiens en direct. Donc voilà, avec des acétates par exemple, son monture en acétate, mais qui ne sont pas chargés de produits chimiques, donc qui ont des capacités à être biodégradées très facilement, un packaging et une communication avec des produits aussi qui étaient recyclés, enfin il y avait une démarche complètement cohérente. Alors bien sûr, ça, c'est que quelques pièces, hein, on parle d'une quinzaine, une vingtaine de pièces, ce n'est pas une grande collection, mais ça a marqué pour moi le virage. Et à partir de là, j'ai agrégé d'autres fournisseurs, toujours un peu dans cet esprit-là. Et puis ça permettait de sortir aussi des... ça c'est un peu le corollaire, c'est que les fabricants qui proposent ça, qui sont d'une certaine façon en avant-garde, ce n'est pas ceux qui évoluent dans les grands groupes hyper structurés, avec des grosses structures capitalistiques qui font du mass market, avec des produits, on sait très bien où ils sont faits, avec des qualités qui sont des fois basses, voire très basses. Là, on est dans quelque chose de complètement qualitatif qui permet de recentrer aussi une fabrication en France et qui a vraiment du sens. Après, ça se fait, je le fais petit à petit, je rentre petit à petit des nouvelles collections. Alors, je ne fais pas que du français, je ne fais pas que du fabrication française. C'est un peu restrictif quand même, donc j'ai aussi des produits qui sont faits à l'étranger, mais de qualité. Et certains aussi qui ont pris des démarches, on va dire, des co-responsabilités. Mais donc, j'ai fait évoluer une partie de mon offre de monture. Je ne sais pas, en volume, ça va, je dirais un tiers à peu près. Et les deux autres tiers, ceux qui sont le plus éloignés, petit à petit, je les sors en fait. Voilà un peu comment ça s'est passé. Je dirais, ça correspond à mon mode d'approche de l'environnement. Ça correspond à une volonté d'aller chercher des produits nouveaux. Ça correspond aussi à répondre à une demande. Et puis je trouve que ça permet aussi de rencontrer des gens qui sont vraiment
passionnés,
voilà, qui sont des entrepreneurs, qui sont passionnés, qui se lancent parce que il y a aussi une prise de risque. Et puis souvent, ça fait des beaux produits. C'est souvent des belles équipes qui font ça. Je veux dire, il y a des belles aventures humaines derrière. C'est vraiment chouette, quoi. Voilà, on n'est pas dans l'anonymat des grands groupes. Enfin, je ne vais pas caricaturer, mais bon, qui vous imposent 60 pièces tous les 3 mois. Et puis, c'est eux qui vont presque décider celles que vous devez vendre. On me raconte que ça se passe comme ça dans certaines chaînes. Où là, je ne vois plus trop l'intérêt du travail d'opticien, c'est de la distribution, c'est plus un métier d'opticien. Enfin, bon, il en faut pour tous les goûts et pour tout le monde. Là, je trouve que ça donne beaucoup d'intérêt justement en plus à notre profession.
Pour Julien Grandchamp, pas de montée en puissance possible. Son magasin Origine se voulant 100% éco-responsable. D'où des choix forts afin que l'impact écologique de son point de vente soit le plus faible possible d'emblée.
Donc sur le nouveau projet, on a réfléchi à la fois, comme vous disiez, aux produits qu'on allait proposer, mais aussi à la façon dont allait fonctionner le magasin pour avoir le moins d'impact possible écologiquement parlant. Ce qu'on s'est dit, c'est déjà dans le choix des produits, c'est qu'aujourd'hui, il existe pas mal de montures qui sont fabriquées de façon biosourcée, entre guillemets, il faut se méfier aussi du biosourcé ou du recyclé, et qui sont fabriquées à l'autre bout du monde, qui sont fabriquées en Chine. Principalement en Chine en tout cas, ça peut être ailleurs, mais c'est principalement en Chine. Honnêtement, tous les trois, on était d'accord sur le fait que ça nous pose un problème. Je ne veux pas critiquer ceux qui le font, hein, parce qu'il y en a pas mal qui le font. Je veux juste mettre en avant, nous, le choix qu'on a fait. Fabriquer une monture en plastique recyclé en Chine et la faire venir de l'autre bout du monde, pour nous, ça présente un problème de présentation du produit. C'est-à-dire que l'impact sur l'environnement, il va être extrêmement faible. L'impact sur la proposition commerciale du produit va être assez fort, mais il va falloir cacher la provenance. Et nous, l'idée de garder une provenance exclusivement locale, du moins la plus locale possible, c'était le plus important. Quand on a hiérarchisé le niveau d'importance qu'on proposait dans nos produits, on s'est dit qu'il valait mieux faire une monture en acétate de cellulose classique fabriquée juste à côté et qui dure longtemps. Et je vais exagérer le trait, plutôt qu'une monture en plastique recyclé faite en Chine qui va péter de suite. La durabilité et l'origine du produit sont plus importantes que le biosourçage du matériau, en quelque sorte. Sur les verres, ça a été exactement la même chose, puisque du coup, on a choisi le verrier, si possible, avec 100% de fabrication française. Du coup, on a 100% de nos verres qui sont fabriqués en France. Déjà, on est content, ça marche bien. Ça correspond à notre prévisionnel, ça le dépasse un petit peu même. Ce qui marche le mieux, c'est les lunettes fabriquées à Toulouse qu'on va chercher en vélo. On a déjà fait 4 réassorts en 6 mois, 150 commandes. Même eux sont étonnés de la façon dont c'est reçu. Alors, ce qui nous a montré que les gens, en tout cas les premiers clients qu'on a sur la première année qui sont intéressés par notre démarche éco-responsable, sont très intéressés par notre démarche locale en quelque sorte. Le côté, on va chercher la monture en vélo, on fait 20 km, on est d'accord, l'empreinte carbone, là pour le coup, c'est vraiment on joue l'image. Ça permet de faire une communication assez intéressante. Ça permet de faire des vidéos sympas et de filmer les artisans toulousains qui font ça et d'avoir une démarche encore plus profonde et sympathique que simplement le sigle Origine France Garantie. Quoi.
On retrouve ces mêmes intentions éco-responsables chez Anne Flambeau et son magasin Optique 2000. Grâce à un discours de vente adapté qui aborde notamment l'histoire des montures, l'opticienne tente de susciter la curiosité de ses porteurs.
Oui, voilà, c'est l'occasion. Alors, il faut que l'occasion se présente. Je ne dis pas que c'est dans le discours de vente systématiquement, mais quand on sent une appétence ou quand on sent l'occasion d'en parler, c'est quelque chose qu'on va volontiers expliquer. C'est-à-dire que oui, ces petits calibres-là, on explique nos gestes du quotidien dans nos démarches engagées et que deviennent ces petits calibres, que deviennent vos anciennes lunettes. Pareil, sur le tri des lunettes, on récupère les anciennes lunettes et aujourd'hui, elles sont intégralement soit réutilisées, données en association si elles sont réutilisables, soit complètement triées et revalorisées, c'est-à-dire que c'est forcément recyclé d'une manière ou d'une autre, et c'est fait en plus dans un centre d'aide par le travail avec des personnes en situation de handicap, et ça embauche une quinzaine de personnes en situation de handicap qui ont eu l'occasion en plus de se diversifier dans quelque chose qu'ils ne savaient pas faire avant, qui ont plutôt bien apprécié l'opération et qui aujourd'hui nous trient et nous revalorisent 100% de nos montures anciennes que nous rapportent nos clients. Enfin. Et ça, c'était l'occasion de raconter des histoires aux gens. Et c'est plutôt bien perçu. J'ai encore eu une dame hier qui était bien, enfin, qui m'a dit, est-ce que vous reprenez les anciennes? Je lui ai expliqué les possibles pour cette monture. Je lui ai dit, soit elle est en état suffisamment correct, elle pourra repartir et être réutilisée pour une personne, c'est donné à une association, soit elle sera intégralement recyclée. Et elle était contente d'entendre la fin de vie de cette monture qui finalement est suivie du début à la fin de son cycle, quoi.
Mois après mois, année après année, Stéphane Lemaire fait de plus en plus appel à des produits éco-responsables, qui pèsent désormais un tiers de son stock. Mais l'opticien parisien veille à ne pas se couper pour autant d'une partie de sa clientèle aux moyens plus limités.
Si on reste sur le chiffre effectivement que vous annoncez d'un tiers de mon offre qui est en OFG ou produits éco-responsables, ça va se positionner globalement à peu près dans le tiers le plus élevé de ce que j'achète en termes de monture. Mon offre en termes de monture, on va dire le dernier tiers, hein, pour à peu près simplifier, dans le dernier tiers, c'est-à-dire le moins cher, avec le panier moyen le plus bas, il n'y a pas de produits OFG, il n'y a pas de produits éco-responsables. Donc, alors effectivement, ça ne correspond pas forcément à ce que je veux mettre en place, mais encore une fois, je fais une transition. Et puis, moi, je vis dans le monde des idées, mais je vis aussi dans le monde réel.
Et justement, votre monde réel, c'est que vous êtes dans le 17e arrondissement de Paris, avec une partie de cet arrondissement qui est plutôt aisée, une partie de cet arrondissement avec pas mal de logements sociaux qui l'est moins. Et vous devez faire la bascule entre les deux.
Tout à fait. Et ça ne me dérange pas, au contraire, c'est une sorte de challenge, de défi que je trouve intéressant, de pouvoir avoir une offre qui soit la plus large possible et qui réponde aux attentes de ma zone de chalandise, pour prendre ce terme-là. Du coup, j'ai un positionnement un peu généraliste, qui est le positionnement pire sur le marché, parce que c'est le plus casse-gueule, pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais comme ma tendance, c'est effectivement l'éco-responsabilité, l'OFG, les produits fabriqués en France, et ça, c'est vers quoi je tends. Mais je garde une offre pour répondre à d'autres demandes et à d'autres budgets. Le cas étant, on peut aborder aussi le cas extrême et paradoxal de la C2S ou anciennement CMU, où ça c'est l'offre d'entrée de gamme qui est prise en charge sécu par la Sécu et qui nous contraint à proposer des produits qui ne sont forcément pas faits en France, parce qu'avec des prix de vente de 30 euros, on sait très bien que ça peut venir que très loin. Mais bon, donc ça, c'est pas cohérent d'avoir cette offre-là en magasin, mais il y a une obligation légale. Et puis, de toute façon, comme je vous l'ai dit, moi, l'important, c'est que je réponde. Je dois pouvoir chausser tout le monde en lunettes, en monture, quand il vient dans mon magasin. Voilà, parce que je suis un acteur de la vie économique du quartier et aussi un acteur social. J'ai une relation avec tout le monde. Et pas forcément des personnes. Il y a des personnes qui sont complètement insensibles à la fabrication française. Et je le comprends, parce qu'ils n'ont pas l'intérêt pour, ils n'ont pas la formation pour, ils n'ont pas l'ouverture pour, ils ont d'autres préoccupations qui sont premières, qui sont forcément plus importantes pour eux, et c'est très bien comme ça aussi.
Même préoccupation de rester accessible chez Jocelyn Villet, tente à sa mesure de concilier éco-responsabilité et rapport qualité-prix.
Aujourd'hui, alors nous, Optique Lafayette, on a notre slogan, c'est la vue pour tous. Donc l'idée, c'est quelqu'un qui fait l'effort, je dirais, de passer le pas de la porte. On se doit de répondre à son exigence au moins d'un point de vue prix. Il faut absolument que quelqu'un qui rentre pour un prix, on sache lui faire la meilleure réponse possible. Donc aujourd'hui, le choix des collections est surtout axé sur un rapport qualité-prix, finalement. Le but quand même aujourd'hui, évidemment, on fait attention aux origines des matières, aux origines des fabricants, etc. Et évidemment, ça, on le dit souvent, mais c'est vrai que si on a une collection, par exemple, qui vient en magasin, qui a un placement de prix, à la rigueur, allez, je parle en prix de vente, c'est 5-10 euros plus cher qu'une collection équivalente à ce qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, ce n'est pas fait en Asie, c'est fait ne serait-ce qu'en Europe déjà, ou voire même en France, c'est des matières beaucoup plus responsables, etc. Là, oui, évidemment, on peut se remettre en question assez facilement, si je peux dire, sur la collection qui est implantée aujourd'hui en magasin pour la remplacer par la collection d'avenir, si je peux dire. Ça, c'est clairement quelque chose de sûr. Après, nous, on a quand même une politique où on veut permettre aux clients d'accéder à des produits de qualité au meilleur prix. Donc, on ne va pas se permettre de dire, bon, ben voilà, il y a une monture, ça coûte 100 euros de plus au client à l'arrivée finale, mais la vraie différence, c'est qu'elle est faite en France. Ça, aujourd'hui, moi, en tout cas, au sein de mon magasin, je ne me le permettrai pas, parce que J'estime rien que le client qui passe la porte ne vient pas non plus que pour du Made in France, par exemple, ou autre aujourd'hui. Il vient parce qu'il a la garantie d'avoir un rapport qualité-prix approchable, un produit de qualité, etc. Voilà.
Ce pari éco-responsable, Anne Flambeau l'assume et le revendique. Mais pour l'opticienne, le marché actuel de l'éco-responsabilité manque de clarté, manque de transparence vis-à-vis des porteurs, au risque parfois de se montrer contre-productif.
Ce qui manque du côté du porteur, je pense que c'est de rendre accessibles des produits qui ont des vraies qualités là-dessus. Ce qu'il va falloir mettre bien en place, c'est aussi ce qu'il faudrait, c'est des espèces de normes. Enfin, c'est facile de dire ma monture elle est éco-responsable, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Tout le monde aujourd'hui communique là-dessus à la télé. On va vous vendre un 4x4 qui bouffe 15 litres au 100 en vous disant que c'est un 4x4 qui est super économique et éco-responsable parce que je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, je pense. Je crois que l'erreur à faire, ce serait de noyer les consommateurs dans des choses un peu partir dans tous les sens et en placer à toutes les sauces. Il y a aussi la partie réutilisation des lunettes. Moi, je sais qu'en ce moment, on y travaille, c'est-à-dire que les deuxièmes paires, plutôt que de forcer à la consommation. On encourage les clients à remettre leur verre de deuxième paire sur leur monture actuelle, qu'ils en reprennent une neuve sur la première paire, mais que peut-être s'ils avaient une monture de bonne qualité, on leur propose de réparer, de remettre en état, de repolir la monture, de prouver aussi qu'on sait encore travailler avec nos mains et faire des jolies choses. Donc c'est de rentrer dans un monde où on va de nouveau réparer et remettre en état. C'est quelque chose qu'on a beaucoup dévalorisé dans notre métier parce qu'on fait tout gratuitement, les soudures, les trucs, les machins, quitte à dire, oh, bah, si c'est pas si joli que quand c'est neuf, c'est un peu normal. Mais je pense qu'on peut peut-être aussi se repencher sur ces détails-là et dire qu'on peut faire une très belle soudure. Ça prend peut-être un peu de temps, mais que la monture, elle repart pour une vie derrière. En première ou en seconde paire. Donc, je pense qu'il y a un peu de chemin à faire là-dessus. Maintenant, ce ne sera pas comme dans les vêtements où c'est facile de passer d'une monture d'une personne à une autre, mais je dirais au moins faire vivre plus longtemps l'équipement d'une personne pour la même personne et pas forcément en l'empêchant de se faire plaisir et de consommer sur une nouvelle paire. Voilà, sur la suite, sur l'avenir, je pense qu'on va avoir des fabricants qui vont quand même se creuser les méninges pour répondre à des problématiques environnementales qui sont réelles. Et je pense qu'ils auront de plus en plus de contraintes imposées qui feront qu'on ne pourra pas non plus utiliser tout et n'importe quoi en permanence et continuer à épuiser nos ressources, quoi.
Et justement, cette transparence est la priorité de Julien Grandchamp, qui ne cache pas son agacement vis-à-vis d'un certain greenwashing. Alors il cherche à tenir sa promesse. Monture locale et en circuit court, bac à récupération d'eau, des choix nécessaires pour rester en cohérence avec son positionnement.
Pour le coup, il faut une double motivation hein, pour le bac à eau. Le bac, c'est dans les 4 000 euros. Et ce n'est pas du tout rentable parce que l'eau ne coûte pas cher. L'eau, elle coûte 3 euros le mètre cube, donc 3 euros les 1 000 litres. Si on fait 100 000 litres par an, ça fait, donc ça c'est sur une moyenne de 10 montages par jour. Là, on ne les fait pas tout à fait encore, mais on n'est pas loin. Bon, si on est sur 100 000 litres d'eau par an, ça fait 300 euros d'eau par an, et donc 300 euros versus 4 000. Bon, ça se rentabilise. Peut-être qu'il faudra changer le bac quand on l'aura rentabilisé. Mais à la limite, on s'en fiche, peu importe. Nous, l'idée, c'était de toute façon aussi de communiquer dessus et d'avoir un truc qui soit réellement plus éco-responsable possible. Sur les verres, je vais revenir sur les verres unifocaux, par exemple. Moi, je suis sûr que les verres unifocaux, on aurait pu se débrouiller pour les verres de stock et mettre afficher en gros tous nos verres de fabrication sont origine France garantie. On le voit souvent. C'est facile de mettre ça et du coup, nous, on peut mettre tous nos verres sont origine France garantie parce qu'on commande en RX. Derrière ça, et le bac Nemo aussi hein, pour la récupération d'eau, il y a une vraie volonté d'être en accord avec nous-mêmes de façon d'éviter absolument le greenwashing. On va essayer à fond de jouer la carte et que ce soit une réussite commerciale, mais que, pas de vice caché quoi, en quelque sorte. Ça, c'est un truc qui nous insupporte un petit peu chez nos concurrents, parfois. Donc, du coup, vu que ça nous insupporte chez les autres, on se soumet à la même règle qu'on voudrait imposer aux autres, en quelque sorte. De fait de commander que les verres en RX ou de prendre un bac Nemo, de toute façon, nous, on ne s'est pas posé la question est-ce que ça allait être rentable ou pas. On s'est dit, on le fait et on essaie de faire en sorte de communiquer là-dessus. Donc, au moins, ça porte un intérêt commercial.
De son côté, avec son positionnement généraliste, impossible pour Anne Flambeau d'accorder une place majeure aux produits éco-responsables, qui sont souvent synonymes d'un reste à charge plus important. Mais elle apprécie ses collections, qui souvent lui permettent de raconter des histoires à ses porteurs, et de susciter chez eux une certaine curiosité.
Alors, on a effectivement au niveau de la centrale des produits origine France, matériaux biosourcés, du biodégradable et du recyclable. Enfin, les services y travaillent régulièrement et donnent de plus en plus de réponses en ce sens. Je trouve que c'est plus difficile de s'y retrouver parce que ça demande. Enfin, chacun y va de son terme. Un coup, c'est du biosourcé, un coup, c'est du biodégradable. On en entend de plus en plus parler. C'est pas toujours évident d'être sûr que c'est la perfection, mais c'est toujours mieux que rien. On a 4-5 collections en magasin qui correspondent à ce type de matériaux. Je parle de monture, là, pour les verges, j'ai pas creusé, j'avoue. J'avais creusé un peu par un temps ce qu'on pourrait faire éventuellement de la poudre de verre qu'on récupère dans nos meuleuses. Je ne savais pas si c'était un déchet très propre, qu'est-ce qu'on pouvait faire de ce déchet et tout. J'ai jamais vraiment obtenu de réponse. Sur les choix des collections, ben, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui uniquement trouver du biodégradable, du biosourcé, du tout ça. Ça a souvent un coût un peu supérieur, en tout cas sur ceux qui le font, je dirais peut-être plus à fond. Tout le monde n'a pas les possibilités de le faire. Spontanément, plutôt, le client va rarement dire « je veux des lunettes éco-responsables » ou je ne sais. Par contre, quand nous, on prend le temps de raconter l'histoire, ben, on sent s'il y a de la réceptivité en face et les gens aiment bien qu'on leur raconte une histoire. Voilà, donc sur les collections qui sont concernées, on forme les équipes pour qu'elles aient les éléments pour raconter l'histoire de la monture parce que c'est pas la peine de les avoir en rayon si on raconte pas l'histoire. Voilà, c'est surtout ça, c'est de raconter une belle histoire et une histoire franche et sincère sur la qualité du produit et ce qu'il a de différent par rapport aux autres, quoi. Je dirais, c'est difficile à dire comme ça, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est entre 10 et 20% maximum. Oui, on sent qu'effectivement, il y a de plus en plus d'acteurs qui viennent intégrer dans leur collection classique du biosourcé, du éco-responsable et tout. On sent aussi sur le travail des étuis qu'il y a énormément de choses différentes qui arrivent aujourd'hui. Les étuis sont volontiers des petits étuis cartonnés. Alors, est-ce que c'est aussi des problématiques de coûts, d'augmentation de coûts des métaux? Je ne sais pas les tenants et les aboutissants, mais ça pourrait être ça. Par contre, ce que j'observe, c'est que j'ai sur certaines collections qu'on a testées, j'ai aussi la demande des équipes. C'est-à-dire que quand elles n'en ont plus et que les collections sont bien parties, elles en redemandent parce que c'est bien parti, parce que les gens ont aimé l'histoire qu'on racontait avec et parce que ça fonctionnait bien. Donc, on y est attentive au moment où on choisit les collections, tout en restant dans des tarifs responsables par rapport au type de clientèle qu'on a.
Un an après son ouverture, c'est l'heure d'un premier bilan pour Origine à Toulouse. Panier moyen supérieur à la moyenne nationale, peu de demandes de devis par les porteurs, produits qualitatifs. Julien Grandchamp est satisfait d'avoir dépassé son prévisionnel. Mais il compte rester accessible pour ses porteurs les moins aisés, quitte parfois à faire des petites entorses à son concept éco-responsable.
Au moins les trois quarts. C'est un magasin qui a zéro clientèle au départ. Nous, on est Toulousains, donc on a quand même du réseau, en quelque sorte. On a nos amis, notre famille. Mais la grande majorité reste sur la première boutique. Notre nouvelle associée, Caroline, amène forcément un petit peu de clientèle en plus qui vient parce que c'est la famille. Et après, on a un peu de clients, peut-être de passage, qui viennent par hasard. Mais moi, alors, nous, on sent vraiment à chaque fois que les gens qui rentrent dans le magasin, ils viennent, j'ai vu que vous proposiez ce type de lunettes, je ne savais pas que ça existait, je suis ravi, me voilà quoi. Et en plus, c'est plutôt des clients très agréables. Il n'y a pas il part pas à un devis à la main en disant je vais faire jouer la concurrence, quoi. Et si c'est trop cher, on choisit une autre monture, on choisit d'autres verres, on se débrouille, mais il n'y a pas de pression en gros mise. Il y a très peu de rapport commercial, il y a un rapport vraiment de confiance, quoi, en quelque sorte. C'est même carrément un problème, le fait qu'on ait pas mal de clients qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui découvrent qu'on ne peut pas faire un 100% santé avec des verres et des montures éco-responsables. On va essayer de chercher des solutions pour ça, mais on ne les a pas encore. On peut sortir quelque chose à 300 euros tout compris en respectant notre charte, Origine France Garantie. Ça reste correct, c'est-à-dire que ça rentre dans le forfait mutuel de pas mal de gens. Et ça fait un dépassement. Et donc, fréquemment, on fait des équipements avec le remboursement 100% santé. Si on pouvait se faire une belle collection de montures recyclées qu'on puisse vendre 30 euros, donc dans le tarif 100% santé, et trouver une solution pour les verres, ça pourrait être top. Pour les verres, c'est un peu compliqué aussi. Je ne sais pas trop comment on pourrait faire. Parce que on est quand même très en dessous des prix qu'il faudrait faire. En gros, je pense qu'on pourrait. Là, pour l'instant, on peut acheter un verre au prix du 100% santé. Du coup, ça pose un vrai problème de marge. En gros, nos verres, on les achète entre 10 et 15 euros, il faudrait les vendre 15 euros. Donc pour l'instant, c'est pas possible.
Et concernant la seconde main, Jocelyn Villet, pour sa part, se montre très prudent, notamment pour des questions de durabilité des montures et de service après-vente.
Bon, la seconde main, je vais être honnête, c'est quand même c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi et j'en ai eu fait, mais uniquement sur du solaire. Pour moi, aujourd'hui, c'est quand même un gros frein, la seconde main, parce qu'on le sait, on vend une lunette à un client. On va dire, allez, si on résume, il les garde 2 ans. Pendant les 2 ans de vie de ses lunettes, il va y avoir un accident. Quand on fait le ratio, quand même, il y a beaucoup de clients qui ont un accident. L'énorme frein de la seconde main, c'est que finalement, le client, on lui vend une monture, mine de rien, qu'on ne peut pas non plus ne pas faire payer cher, si je peux dire, parce que qui dit seconde main, il va quand même falloir qu'on fasse un travail de restauration sur le produit. On va quand même avoir des interventions à y mettre. Donc, en réalité, des fois, on peut se retrouver avec des produits de seconde main qu'on devrait vendre plus cher qu'un produit neuf, en réalité, parce que c'est très difficile à industrialiser, etc. Donc, dire que la seconde main, alors c'est une idée bonne, mais dans le cadre des lunettes, je trouve que c'est un vrai frein, en tout cas pour des lunettes de vue en verre blanc, je dirais, des lunettes de la vie de tous les jours. Moi, je sais que personnellement, je l'en faisais, mais uniquement sur du solaire, parce que le solaire, c'est un peu plus ponctuel. Si j'ai un accident sur ma solaire, ce n'est pas non plus essentiel. Je peux m'en passer, je dirais, le temps de trouver une solution, etc. Là, un client, typiquement, on lui vend une monture de seconde main, il vient au magasin, il nous dit « je l'ai cassée, il faut me trouver une solution ». C'est une monture, à 99% des cas, on ne la retrouvera pas, cette monture, en réalité. Ou on ne la retrouvera pas le jour même, quoi qu'il arrive. On la retrouver certainement, mais déjà ça va demander énormément d'efforts et on va mettre longtemps à arriver à la dénicher, mine de rien. Donc pour des lunettes de vue, je trouve quand même que cet aspect du service qu'on ne va pas pouvoir répondre entièrement est un vrai frein, parce qu'on est quand même dans du paramédical, le client, enfin, mine de rien, c'est une prothèse, sa prothèse, elle casse, il faut qu'on puisse le remplacer le plus tôt, on ne peut pas se permettre de le laisser une semaine sans lunettes ou avec quelque chose de très bancal, si je peux dire. Donc moi, ça, c'est l'énorme frein de la seconde main aujourd'hui. C'est vraiment vis-à-vis du client de vraiment lui permettre ce service complet. Après, sur du solaire, non, aucun problème, bien évidemment, parce que voilà, c'est des lunettes qu'on porte de manière plus ponctuelle. Quand c'est des lunettes sans correction, bon, là, aucun problème, bien au contraire, là, pour le coup. Sur la lunette, ça peut avoir ses limites, en tout cas pour des personnes qui ont vraiment l'exigence, qui ont un besoin sur leur correction. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est un frein pour la seconde main, parce que c'est très dur à industrialiser, etc. Il y a pas mal de facettes qui se révèlent un peu bloquantes. Attention, il y a des personnes qui aiment ça aussi. Il y a des personnes qui adorent avoir un produit un peu déniché. Finalement, ils savent qu'il va être encore un peu plus exclusif parce que c'est des produits qui sont plus reproduits, etc. Donc, il y a quand même des avantages à ça, mais je dirais, pour moi, c'est une niche. C'est vraiment une toute petite niche pour moi, aujourd'hui.
Pratique en magasin exigeante et vertueuse, recours à des fournisseurs de proximité, choix de produits français qualitatifs, satisfaction de tendre vers une approche respectueuse de l'environnement, Anne Flambeau, Julien Grandchamp, Stéphane Lemaire et Jocelyn Villet ne regrettent en rien d'avoir opté pour une approche éco-responsable. Chacun à leur manière, chacun dans leur positionnement, ils ont conscience aussi d'anticiper les évolutions futures de la filière optique. Chers auditeurs, c'était votre nouvel épisode de « Et comment on fait ?». Nous étions ravis de vous retrouver. D'ici notre prochain rendez-vous lors des semaines à venir, n'hésitez pas à retrouver nos podcasts précédents sur bienvu.ws, mais également, comme d'habitude, sur Spotify, iTunes ou encore Deezer. À très bientôt !